Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La laïcité au Mali, c'est le sujet du Grand Dialogue de ce mercredi 7 décembre 2015 qui parle de laïcité, parle de relations entre l'État et la religion. Ces rapports reposent normalement sur les principes de la laïcité au Mali lorsqu'on se réfère bien sûr au texte. Mais c'est quoi au juste la laïcité? Comment est-elle comprise au Mali par les citoyens lambda? Est-elle menacée d'une manière ou d'une autre? Ces questions font souvent l'objet de discussions dans les lieux de causerie. Des questions de fond sur lesquelles nous allons réfléchir avec nos invités qui sont Issa Kaoudjim du Haut Conseil Islamique. Monsieur Djim, bonsoir. Zbeiti Ag Akado, il est de la société civile. Monsieur Akado, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons en ligne Mamadou Samake. Mamadou Samake qui sera donc en ligne. Il est professeur de droit. Monsieur Samake, bonsoir. À la présentation, Seydou Fomba.
Studio Tamani.
Auditrices, auditeurs, bienvenue. La laïcité au Mali, le sujet se retrouve souvent au centre des discussions et particulièrement lorsqu'on évoque certains dossiers comme le code de la famille ou les propos récemment prêtés à un leader religieux ou à un responsable d'une instance juridique. La question ne semble pas être si bien comprise par tous les Maliens. Alors, première question, que faut-il comprendre par laïcité? Alors, nous posons cette question en premier lieu à Issa Kaoudjim, il est du Haut Conseil islamique.
Merci, monsieur, de m'inviter à cette rencontre, à ce débat. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, si vous posez la question, c'est quoi la laïcité? Je pense que, pour me permettre de revenir un peu à mieux répondre à cette question, laïcité, d'abord, pour le Malien, c'est d'abord, historiquement, on ne peut que se référer à la France, puisque nous avons été colonisés par la France. Et l'histoire de la laïcité est d'origine chrétienne. Donc, nous savons aussi que la loi de 1904 en France, amendée en 1905, a défini vraiment, alors, suite à ce que nous qualifions de la révolution de 1789 en France, qui a mis fin à la gestion des pouvoirs d'État de l'Église, et pour dire que, bon, en France, suite à cette victoire des républicains, alors, de mettre une nouvelle forme de gestion, donc, qui a voulu qu'un État soit indépendant des religions. Donc, quand on parle de religion, la France étant par essence une religion chrétienne, donc, cela explique tout simplement que ça pose problème dans le contexte malien, bien que la France a colonisé le Mali, qui est venu trouver que nous avons des valeurs sociétales, nous avons des religions, nous avons alors une façon de gérer. Quand vous prenez le Mali dans sa diversité, vous prenez les régions nord du Mali, vous prenez aussi le sud, vous allez trouver qu'il y a une diversité mosaïque, alors de compréhension de culture, et tout ça, la France est venue trouver. Mais elle a bouleversé par la colonisation, et ceux qui ont été dans les écoles, qui sont devenus les premiers intellectuels qui ont géré le pays, ont pris des voies. La Première République a parlé du socialisme scientifique, etc. La Deuxième République avec les militaires et ensuite l'Union démocratique qui s'est civilisée, entre guillemets. Et ensuite, il y a eu ce que je qualifie vraiment le forfait historique du mouvement démocratique et qui nous a conduit vraiment à ce problème qu'on ne peut pas expliquer. Parce que quand vous regardez la constitution du Mali dans son préambule, on parle très simplement en disant que le Mali est un, je cite, permettez-moi, juste en disant que le peuple malien est un peuple fort de ses traditions et de lutte héroïque. Mais de quelle lutte héroïque parle-t-on? On peut parler de Sundiata, de Babemba, de Furun, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la colonisation ou bien la révolution française? Vous allez dire qu'ils ont été des grands résistants. Et vous allez voir aussi que le Mali, 95% musulman, alors la laïcité malienne, elle est bloquée parce que tout simplement, le mouvement démocratique quand est venu sur la scène politique, non seulement en disant que, regardez l'Algérie avec les islamistes, le fils, alors il fallait, tous ceux qui réclamaient des partis politiques d'obédience religieuse, on avait dit non, on n'en a pas besoin. Alors on les a cartonnés ou catalogués dans les associations. Et aujourd'hui, vous avez des milliers d'associations qui, aujourd'hui, n'ont pas de statut. Alors, on se retrouve avec un système où personne ne sait qui est qui, quand on sait que comment les présidents sont élus, comment les gens viennent dans l'Assemblée nationale, comment ils font la cour aux religieux. Alors, une fois qu'ils sont dans l'institutionnel, ils disent que le pays est laïque. Donc, je pense que la laïcité au Mali, c'est vraiment une tricherie politique.
Alors, nous avons donc en ligne Mamadou Samake, il est professeur de droit. Nous avons entendu Issa Kaoudjim qui est du Haut Conseil islamique. Nous allons à présent demander au juriste de nous dire ce qu'il entend par laïcité. Monsieur Samake.
La laïcité est d'origine occidentale. Vous savez que par le passé, les rois en Europe étaient battus sur l'onction du Vatican. fallait l'aval du Vatican pour que les rois soient sacrés. Donc arrête la révolution française et le corollaire de cette France qui a suivi. On a voulu une séparation de l'Église avec l'État. Donc, en termes de définition occidentale, on pourrait dire que la laïcité manifeste une certaine neutralité de l'État. C'est-à-dire l'État à égale distance des religions. Donc, le religieux ne doit pas interférer dans le politique, comme l'État, lui aussi, ne doit pas interférer dans le domaine religieux. C'est pourquoi notre constitution, comme le représentant du Conseil islamique l'a dit, prescrit la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais on ne peut pas ignorer le fait que la religion catholique au Mali date d'un peu moins de 200 ans, et que le Mali a connu une partie islamique déjà depuis le 9e siècle, et qui a une religion dominante. Mais en tous les cas, de notre accession à la souveraineté nationale jusqu'à ce jour, il y a en tout cas une parfaite intelligence, puisque l'islam malien est d'obédience toute, et une parfaite intelligence entre les différentes communautés religieuses. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant.
Nous avons ici dans ce studio Zbeiti Aga Akado, il est de la société civile. Monsieur Akado, que pouvez-vous nous dire de la laïcité?
Bien, merci. En fait, je ne saurais dire grand-chose plus que mes deux prédécesseurs. Et je profite du micro pour dire bonsoir à tous les auditeurs. Nous, de la société civile, nous sommes à peu près dans les mêmes dispositions, n'est-ce pas, que les religieux et les juristes, pour dire que la notion de laïcité est une notion étrangère, n'est-ce pas, à nos formes de gouvernement, à nos formes d'organisation. Elle nous est venue d'ailleurs. Et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs ce qui explique un peu toute la confusion autour de ce concept, qui, comme les prédécesseurs l'ont dit, repose sur un principe qui veut que dans certains pays, on sépare l'Église de l'État, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut réellement créer une frontière nette entre tout ce qui est conçu par la religion et ce qui est conçu, si vous voulez, par les arrangements faits par les hommes. Tout est parti de là. Alors, ici, comme vous le constatez, les populations ne se retrouvent pas. Et la plupart des gens ont tendance à penser que la laïcité veut dire « je fais ce qui me convient, ce qui me va ». Point barre. Et c'est là que c'est là le point d'achoquement entre...
Alors, autrement dit, la laïcité n'est pas bien expliquée aux citoyens
lambda. Elle ne peut même pas être bien expliquée, parce que pour l'expliquer, il faut que les populations soient prédisposées, n'est-ce pas, disons, soient éduquées. C'est un processus qui amène à la laïcité. Ce processus-là, nous ne l'avons pas connu. Comme Jim l'a dit, c'est une guerre de pouvoir entre l'Église et les rois qui a amené, n'est-ce pas, les nations européennes à concevoir cette forme de gestion des populations, c'est-à-dire il faut une certaine différenciation, une certaine séparation de l'Église et de l'État. Nous, ce n'est pas le cas. Si vous prenez la genèse de nos royaumes, qu'il s'agisse du Ghana, l'islam, par exemple, a toujours eu son mot à dire dans l'empire du Ghana. Il l'a eu dans l'empire du Mali, il l'a eu dans l'empire Songhai, et il continue de l'avoir. Parallèlement à l'islam même, nos traditions, nos coutumes, etc. C'est sur cette base-là que les gens peuvent, n'est-ce pas, concevoir une forme d'organisation. Mais quand on vient leur parachuter une conception qui ne colle pas avec avec leur vie de tous les jours, ça crée des ordres. Et c'est pourquoi, je l'ai dit tantôt, il y a réellement une confusion par rapport à la compréhension de cette conception-là. Et c'est un peu le grand problème, à mon avis.
Alors, quelle que soit quand même l'origine de la laïcité, si toutefois elle a un côté positif, est-ce que tout le monde n'a pas le droit de s'en inspirer? Je pose la question à Issa Kaoudim.
Merci. Je pense que la question fondamentale, elle est biaisée, à mon sens, parce que, vous savez, pour mieux expliquer, il faut comprendre l'historique et aussi la marche des peuples. Et donc, le Mali est un grand pays, c'est pas seulement géographie ou histoire, mais c'est la c'est parce que c'est cette culture, cette diversité, et surtout aussi à parler, mon frère, de la société civile. Quand vous regardez le Mali de Koumbi Salé, de parler de Ouagadou, de parler même de Kourkanfouka, quand on parle de charte de Kourkanfouka, mais vous savez, vous comprenez que c'est pas un pays que le blanc est venu trouver vierge. Donc, notre problème, en réalité, j'ai dit, c'est une tricherie intellectuelle, le mot n'est pas fort, voire même une prostitution intellectuelle. Parce que j'ai voulu être un peu nuancé. Quand on regarde la Première République, c'est d'abord un divorce entre le colonisateur et ceux qui ont été victimes de la colonisation parce qu'ils l'ont subi. Et donc, la Première République a fait un virage de 1000 à l'heure, aller se réfugier dans un autre système qui est le socialisme scientifique, c'est-à-dire aller voir les pays de l'Est. Parce qu'il y avait deux blocs. Ou vous êtes avec l'Ouest, ou vous êtes avec l'Est. Il y avait un centre qu'on appelle les pays non alignés. Donc, tout ça ne convenait pas à nos valeurs sociétales. Parce qu'il fallait d'abord prendre en compte nos valeurs sociétales comme richesse, comme aussi inspiration, et aussi de s'ouvrir à la modernité. Et malheureusement, on s'est opposé à l'Occident, qui nous avait colonisé, je parle précisément de la France. Et donc la France avait des moyens de pression et de rétorsion, parce que non seulement a saboté la monnaie nationale, ça c'est politique, et ensuite aussi la Première République à travers l'ISRDA s'est sabordée en essayant de dissoudre les institutions, et qui a mené le chaos de 68. Et donc quand les militaires sont venus, des jeunes militaires qui ont fait un coup d'État, qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient pas d'orientation, et qu'on savait aussi que certains étaient manipulés, donc ils ont pris le pouvoir, et pendant 10 ans c'était le chaos, c'était le CMLN, c'est-à-dire Comité Militaire de Libération nationale. Et ensuite, ils sont venus à l'UDPM, qui a mis une forme d'organisation, qu'on soit d'accord ou pas, il y avait parti politique. Et alors, qu'on a estimé que non, à un moment donné, parce que ce que les gens ne disent pas, que je vais vous dire, je pense que vous n'allez pas le censurer, c'est que quand le mouvement démocratique est venu sur la scène politique, mais ce n'était pas de la démocratie. La France Liberté avec Daniel Mitterrand, parce que François Mitterrand avait compris, pour se sortir d'affaires de sa politique intérieure, avait besoin de sa réélection, avait demandé seulement à ses ex-colonies, à les inviter à ce qu'on appelle le sommet de Bâle, de leur dire, alors dorénavant, l'aide au développement de la France est liée à l'ouverture politique. Alors tous ceux qui étaient mécontents de leur régime respectif se sont engouffrés. C'est là qu'il y a eu des changements brutaux. Alors qu'on est venu avec, soit disant, une démocratie de vrac, et qu'on a dit, par exemple, quand j'ai cité la constitution du Mali du 27 février, et qui disait dans son préambule, le Mali est un peuple souverain fort de ses traditions de lutte. Mais les traditions de lutte du Mali ne datent pas de la démocratie, qui n'est qu'une histoire récente. Et cette tradition de lutte, on parle de Babemba, de Samori, de Tchéba, tout ça. Alors quoi avons-nous fait de ces traditions de lutte pour s'inspirer de ça et de Kourkanfouka pour prendre en compte nos valeurs sociétales qui est une richesse et un patrimoine extraordinaire pour nous quand on parle de Tombouctou, quand on parle de Djéné, quand on parle de Sonny Harbert, mais tous ces gens, ces valeurs de Koumbi Salé, est-ce qu'il a été pris en compte dans la constitution de 92?
Vous direz non,
je vais arriver très rapidement. Donc voilà, le mouvement démocratique est venu à parler aujourd'hui, en train à vanter la démocratie, alors que la démocratie nous a mené à quoi? Parce que la démocratie était basée sur quoi? Laïcité, démocratie et multipartisme intégral, et qui allait permettre à une émergence d'une société moderne de démocratie, surtout aussi l'émergence de bonne gouvernance. Et aujourd'hui, faisons le compte. Le compte, c'est qu'on avait dit dans la Constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible, alors qu'on a eu un coup d'État. Donc, la question qui doit être posée fondamentalement, c'est parce que cette tricherie politique nous a amené dans le gouffre qu'on ne peut pas expliquer. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème de laïcité. Si la laïcité veut dire tout simplement, je suis musulman, je dois accepter mon frère chrétien, le frère chrétien aussi, il est malais, il a les mêmes droits que moi, alors l'État doit être égal distant à toutes ces religions pour qu'il s'exerce librement, le Mali ne connaît pas ce problème. Je crois que c'est un problème de prostitution intellectuelle des élites qui ont peur parce qu'ils ont perdu la main et qui ne veulent pas admettre qu'ils ont échoué. Voilà tout le problème.
Alors, il est presque 18h30. Nous allons observer notre première pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La laïcité au Mali, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce mercredi. Pour en parler, nous avons trois invités, Issa Kaoudjoum du Haut Conseil islamique, Osbeti Agadou de la société civile et Mamadou Samake qui est professeur de droit. Alors, nous venons donc d'entendre Issa Kaoudjoum, alors qui nous parlait de la façon dont la laïcité s'était retrouvée ici au Mali. À présent, nous allons joindre Mamadou Samake, professeur de droit. Alors, Monsieur Samake, entendre quand même Monsieur Jim, on a l'impression que la laïcité est quelque chose qui a été d'une manière, enfin, de façon peut-être indirecte, imposée au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, dans sa forme moderne, on peut dire qu'elle a été imposée, parce que toutes les trois constitutions du Mali, celle de la première, de la seconde et de la troisième république, prônent le Mali comme étant un pays laïque. Mais on ne peut pas quand même occulter l'histoire millénaire de notre pays. La religion musulmane, quand elle est intégrée à notre pays, déjà au 9e siècle de notre ère, donc deux siècles après son avènement en Arabie, elle est venue trouver des valeurs de civilisation au Mali. On ne peut pas occulter le fait que Gélé-Gélo, c'est 250 ans avant Jésus-Christ. On ne peut pas occulter le fait que l'Empire du Ghana a commencé à partir du Mali. Il y avait déjà des religions traditionnelles qui ont bien cohabité avec l'islam. Donc la laïcité en tant que forme, si vous voulez, de gouvernement qui met les religions en parfaite intelligence a toujours existé au Mali. Je crois savoir qu'il n'y a pas de guerre de religion au Mali. Les chrétiens, les musulmans, les animistes vivent en parfaite intelligence. Mais maintenant, la laïcité comme forme hérité de l'Occident, bien entendu, on a dit, c'est d'abord une valeur occidentale. Je vous l'ai dit dans mon propos préliminaire que ces valeurs nous sont venues d'Occident parce que à l'origine, c'est le Vatican qui donnait l'onction aux différents souverains européens. Et c'est avec les différentes révolutions qu'on est arrivé au principe de la séparation de l'Église et de l'État. L'État doit jouer son rôle régalien de protection de la liberté de conscience de tout le monde et le religieux aussi ne doit pas interférer dans le domaine politique. Ça, c'est les valeurs occidentales. Donc l'État doit veiller à la liberté de conscience et à la liberté de culte de tout le monde.
Oui, mais monsieur Samak, est-ce que la laïcité ne permet pas justement de renforcer tout cela?
Ah ben, la laïcité, bien entendu, permet de renforcer tout cela. Ça a existé au Mali bien avant les constitutions occidentales dites républicaines que nous avons connues. La République n'est pas une valeur malienne.
Alors, nous retournons donc dans ce studio pour donner donc la parole à Asbeti Agadou, qui est donc de la société civile. Dites-nous, monsieur Agadou, doit-on finalement penser que la laïcité, dans le contexte malien, c'est quelque chose d'artificiel?
Artificiel, c'est peut-être trop dire. Il faut simplement préciser les choses. Il faut simplement faire comprendre aux décideurs, tout comme aux populations, que cette laïcité qui repose sur un certain nombre de vécus des Européens n'est pas forcément applicable chez nous à la lettre, n'est-ce pas? Tous les pays du monde, tous les systèmes dans le monde entier, il y a des modèles, n'est-ce pas? Nouveaux ou anciens, qui se recoupent d'une manière ou d'une autre. La gestion des hommes est presque la même partout, sauf que chaque peuple a ses spécificités, et c'est sur ces spécificités-là que les gouvernants se reposent, se fondent, n'est-ce pas, pour orienter, pour tenter de trouver la meilleure forme. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas arrivé chez nous. On a trouvé des modèles déjà fabriqués, et on a tenté de les implanter chez nous. Sinon, la laïcité pensée comme un modèle ou un modèle, si vous voulez, fruit d'un consensus national est une bonne chose. Et c'est ce consensus-là qui a prévalu quelque part en Europe, quelque part, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux. Est-ce que ce consensus-là a eu lieu chez nous ici? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grands rassemblements, de grandes réflexions sur la laïcité chez nous ici au Mali. c'est un terme qui est venu comme ça. Certes, on pense que c'est une bonne chose, il ne faut pas mêler les choses, il ne faut pas mêler les religieux à un certain nombre de choses, mais en réalité, le côté positif ne peut être obtenu que si il y a un véritable débat, une conférence en quelque sorte, ou si vous voulez, une sorte de concertation nationale sur ce problème-là, qui, à mon avis, peut servir quand même de modèle, peut servir à quelque chose.
Alors, Issa Kaou Djim, je crois qu'il n'est dit nulle part qu'il faut appliquer la laïcité au Mali tel qu'on le fait en France. La laïcité, est-ce qu'elle ne peut pas être adaptée aux réalités du milieu? Par exemple, la laïcité au Mali, l'adapter aux réalités maliennes, c'est bien faisable?
Si vous me permettez de faire une analyse de fond, parce que vous savez souvent, quand on veut orienter les questions, elle est vite répondue. Moi, ce que je veux vous dire, d'abord, quelle est la place de l'éducation islamique, le Coran, qui est l'une de nos valeurs ici. L'Imina Jiris en a parlé, l'autre a parlé, depuis deux siècles après l'avènement, sinon moins, de l'islam en Arabie. Le Mali fait partie, l'un des pays rares du continent à embrasser cette religion. Et donc, dans le domaine public, on considère ça comme étant tout simplement, alors pour les musulmans, donc c'est religieux. Alors que nous savons que pour les pays qui à 95%, et comment vous pouvez intégrer un système éducatif qui ne prend pas en compte des valeurs religieuses et que vous ne vous attendez pas à accoucher d'un monstre. Je vais vous dire aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui la laïcité malienne n'est qu'une tricherie politique? Parce que l'Occident défend des valeurs judéo-chrétiennes et ceux qui ont fait des études classiques, rares sont ceux qui ont une formation religieuse d'accompagnement. Quelqu'un disait laïcité, séparation de l'État de l'Église. Mais écoutez, de où parle-t-on? Parlons seulement de la France. C'est spécifique à la France. Vous allez voir des pays scandinaves, il y a des partis d'obédience religieux. Vous allez voir Vatican, le Saint-Siège, mais le Saint-Pape, il a le statut de chef de l'État. Il est reçu dans les assemblées, il est reçu dans les sénats, il est reçu comme chef d'État, il tient des discours politiques, il se prononce sur toutes les questions. Et alors, pour les religieux dans les pays dominants, on dira que non, il ne faut pas que le religieux se mêle de la politique. Mais en réalité, l'Occident s'est toujours braqué, s'est toujours opposé à l'islam d'une façon déguisée ou d'une façon institutionnelle. Parce que vous ne pouvez pas imposer un système à un pays qui est 95% religieux et qui ne prend pas en compte ses valeurs sociétales. Vous avez parlé de l'Asie. L'Asie, c'est la démocratie. Vous prenez l'Asie, un pays comme le Japon, c'est une démocratie, mais pourtant, ils prennent en compte leurs valeurs sociétales. Vous allez prendre des pays comme sous-continent, l'Inde, c'est une démocratie, mais ils ont des valeurs qui prennent ça en compte. Et quand on vient chez nous, on dit non, c'est la constitution jacobine, la France, c'est le système français qui est imposé. Le virgule n'est pas changé. Donc, quand vous regardez les institutions, vous avez le président de la République, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez etc. etc. Mais le rôle, le statut de l'imam dans tout ça, il n'y a pas de statut. Le chef tradition, le chef du village, le chef du quartier, que toutes ces institutions sont couchées ici devant nous tous, à la suite de ce que j'ai qualifié de cette farce démocratique, mais ils se sont donné alors tous les moyens, ils ont contrôlé l'économie, ils ont pillé dans les caisses de l'État, alors ils se sont enrichis sur le dos, sur la misère du peuple. Et aujourd'hui, on nous parle de la menace alors des religieux sur la scène politique. On est là à tricher. Maralte, je vais répondre à votre question. C'est que tant qu'on ne remet pas en cause de foi en comble, il a parlé d'État général, d'État généraux, il a parlé de... Moi, je dis seulement de faire l'État de la nation. Parce qu'aujourd'hui, après 55 ans, on s'est rendu compte qu'on s'est planté. Et tout le monde est d'accord que le système s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne crois pas à la laïcité française, mais je crois qu'une forme de démocratie qui prend en compte nos valeurs sociétales, et le juriste l'a dit, le Mali est laïque d'essence, parce que s'il s'agit de dire que je suis musulman, l'autre est chrétien, l'autre est animiste, cela n'a jamais posé problème au Mali. Mais ce qui pose problème au Mali, c'est la gestion catastrophique des élites qui ont échoué, qui ne veulent pas admettre que le système politique qui soit à la base de ce chaos, qui doivent se remettre en cause, qu'on se regarde droit yeux dans les yeux pour dire que c'est notre pays, c'est notre bien commun, et de s'asseoir et en intelligence de dire ce qui n'a pas marché et de faire le meilleur qu'il peut, et que chacun reconnaît sa part de responsabilité. C'est à ce seul prix que nous trouverons vraiment les voies au moins de sortir de ce gouffre. Sinon, le problème de la laïcité comme définie par le système judéo-chrétienne ne marchera pas au Mali.
Alors, professeur Samake Mouadou Samake, vous êtes donc en ligne. Dites-nous, le fait que telle ou telle religion est pratiquée par la majorité écrasante de la population d'un pays peut-il rendre difficile l'exercice de la laïcité?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous l'ai dit, le Mali a connu l'islam deux siècles seulement après son avènement en Arabie. Et cet islam est venu trouver des religions traditionnelles. Ils ont cohabité juste maintenant. Et la religion chrétienne existe au Mali depuis moins de 200 ans. Il n'y a jamais eu de guerre entre les différents cultes religieux au Mali. Il y a des protestants qui font leur culte. Il y a des catholiques qui font leur culte. Il y a des musulmans et même au sein de l'islam. Il y a, comment dirais-je, des sunnites, dits wahhabites. Mais à ce que je sache, il n'y a jamais eu de conflit ouvert, comment dire, entre ces différentes entités religieuses. Mais là où je suis d'accord avec le représentant du Haut Conseil islamique sur le plateau, la loi doit être l'expression de la volonté générale. On ne peut pas occulter la volonté de 95% de la population. Se plaindre de l'irruption, des religieux sur la scène politique, ben, la classe politique elle-même doit regarder ou balayer devant sa porte qui a permis cette irruption. C'est parce que le politique n'a pas su jouer son rôle, il n'a pas su prendre en compte les préoccupations des populations, ce qui a fait que le religieux s'est substitué, comment dirais-je, au politique. Regardez tout le tollé qu'il y a eu autour du code de la famille. L'Assemblée, avec une écrasante majorité, l'avait voté. On dirait que les députés, à l'époque, ne fréquentaient même pas les mosquées, sinon on ne serait pas allé à une seconde lecture de la loi. Et depuis la crise multidimensionnelle qu'on connaît depuis 2012, quel a été le rôle de la classe politique? C'est les religieux qui sont en train de s'occuper du problème. Donc, la classe politique, elle doit s'en prendre à elle-même. La plus haute autorité de l'État, quand il commence ses discours, il commence par quoi? Bismillah, Rahman, Rahim, Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ça vous donne quoi?
Alors, nous restons donc dans ce studio bientôt, dans moins de 2 minutes, dans 3 minutes, il sera donc 18h45. Je crois qu'on va observer la deuxième pause avant de poursuivre ce débat.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, Zbeiti Akado, vous êtes de la société civile. Vous venez d'entendre Issa Kaoudjim qui expliquait un peu le tenant et aboutissant de la réalité de la laïcité au Mali. Vous avez entendu les juristes Mamadou Samake. Maintenant, vous avez certainement une réaction, M. Akado.
Je vais plutôt juste être bref pour dire que les deux ont pratiquement touché là où il y a problème. Au jour d'aujourd'hui, nous avons expérimenté des modèles, et je dirais nous les avons même mal expérimentés, parce que le copier-coller ne réussit pas forcément. On l'a essayé, on a mis des institutions à l'image de l'Occident, qu'elles soient les institutions de justice, qu'elles soient les institutions de l'exécutif, en ignorant tous les fondements, n'est-ce pas, qui nous ont amenés là aujourd'hui, qui ont fait la civilisation malienne, pour être précis, sur le Mali. Donc, après avoir expérimenté tout cela, nous sommes en face d'un échec, et cet échec doit nous interpeller pour dire que, au lieu de regarder la laïcité sous l'angle de l'Occident, il est bien aujourd'hui que nous disions tout simplement, précisons les rôles, sinon les pouvoirs des uns et des autres. Le religieux doit savoir n'est-ce pas? Ça, c'est dans un débat aussi, dans un grand forum. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. On peut le préciser. On ne peut pas forcément ressembler à l'Empire du Ghana ou à l'Empire du Mali, mais au jour d'aujourd'hui, compte tenu des réalités d'aujourd'hui, nous avons l'obligation de nous asseoir et de préciser qu'est-ce qui revient aux religieux, qu'est-ce qui revient aux politiques, et ensemble, nous allons tracer une voie, n'est-ce pas? Les relations entre les deux, est-ce que le religieux doit se prononcer sur telle ou telle question? Tout cela peut s'arranger dans une sorte de consensus, et je pense que c'est ce qui nous reste et c'est ce qui peut nous sauver aujourd'hui. Sinon, le chaos dans lequel nous tournons ne nous amènera nulle part.
L'État est, à ce que je sache, quand même le garant de la laïcité. Et veille-t-il au bon fonctionnement de ses principes? Il me semble personnellement qu'il est quand même l'État bien flexible sur la question à bien des égards, Monsieur Jim.
Mais écoutez, je crois qu'il ne faut pas que nous faisons semblant. Parce que dans ce pays, on fait semblant. Je crois que le très libéral juriste a parlé. Moi, ce que je vais vous dire, quand il y a eu la crise, comme il l'a si bien dit, multidimensionnelle, qui a amené le deux tiers de notre pays à être occupé par des soi-disant, qu'on qualifie de tous les mots. Moi, je pense que le problème, en réalité, le pays n'a même pas été occupé. Le pays a été abandonné. L'expression est politique. Peut-être que si j'ai le temps, je peux développer. Mais la question que je vais vous répondre, c'est que aujourd'hui, le problème au Mali, c'est quoi? Quand des gens qui s'abritent derrière des terminologies terroristes, djihadistes, islamistes, qui sont venus attaquer ceci, cela. Mais écoutons, qu'on arrête d'instrumentaliser, de prendre des gens comme des gens qui ne comprennent rien. En réalité, le problème est plus complexe. On sert d'appât d'alibi et pour essayer de diaboliser le musulman. Si des prétentieux sont venus occuper avec d'autres acteurs qui sont venus occuper le Nord, cette crise est multidimensionnelle. Mais le côté religieux, je vais m'appuyer sur ça pour rebondir et répondre à votre question. Quand il y a eu la crise au Nord, qui s'est généralisée avec le coup d'État que nous connaissons tous, le rôle des religieux, on en a parlé. Mais il y a un aspect du religieux qu'on n'a pas parlé. Le Haut Conseil islamique a demandé ici à tous les Maliens et les musulmans de sortir pour comprendre d'abord le processus d'élection et de sortir massivement pour voter. Et on choisit un candidat qui est aujourd'hui à la tête de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a gagné sans le soutien de cette communauté musulmane, il ne sera pas là. Il n'a pas ce parti politique qui pouvait l'amener là où il est, et nous le savons tous. Et pourtant, ça n'a rien changé. Nous n'avons pas demandé de remettre en cause les institutions, nous n'avons pas demandé de remettre en cause la laïcité, mais nous avons dit que nous soutenons le président de la République pour deux raisons simples. La première, s'il reçut, c'est le peuple qui reçut, parce qu'aujourd'hui, nous devons tous conjuguer nos efforts pour arrêter ceux qui veulent se servir de l'islam pour créer le chaos. Alors, si on est d'accord sur ça, est-ce que vous pensez qu'il est responsable que la structure fêtière qui est le Haut Conseil islamique, qui est l'interface entre le pouvoir et la communauté musulmane, n'est pas son mot à dire sur des questions nationales et pour prendre une position dans un cadre constitutionnel ou institutionnel? Alors, s'il parle dans un domaine religieux, on dit qu'il outrepasse. Alors, c'est prérogatif, ou alors il est en train de se mêler de quoi? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème. Quel est le statut? Vous pensez qu'aujourd'hui, une communauté, 95%, qui se regroupe pour élire quelqu'un à la tête de cette structure pour parler à leur nom, alors que le président de la République a un statut, le président de l'Assemblée nationale a un statut, tous les présidents des institutions ont des statuts, mais même le gouverneur a un statut, et vous pensez que même l'Église catholique a un statut, parce qu'ils sont couverts par un cadre juridique qui relève du Vatican, et vous pensez que le président du Haut Conseil islamique au Mali, 95% musulman, ne doit pas avoir un statut? Et au nom de la laïcité. Donc je pense que cette tricherie politique, le peuple a compris, c'est pour ça a vomi la classe politique. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. On fait l'islam, on fait la démocratie. Alors cette forme jacobine de laïcité, je ne me crois même pas. Je crois à la démocratie, qui quand même, si c'est une bonne gouvernance, c'est la liberté de choix, de culte, je suis d'accord. Mais on fait la démocratie avec la communauté musulmane ou on ne le fera pas du tout. Parce que ce que je vais vous dire, quand les intellectuels ont avancé en Première République, Deuxième, Troisième, puis ont mis des systèmes politiques et qui sont avérés, pas adaptés, mais aujourd'hui, vous avez des imams qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui ont des licences, qui parlent arabe, qui parlent anglais, qui parlent français, qui comprennent le système politique, qui connaissent le système jacobin, qui connaissent le fonctionnement de l'État. Et vous pensez que ces gens-là vont vous laisser voir en train de faire, alors torpiller et puis faire de la diversion au nom de la laïcité, parce que les gens savent. La question fondamentale, on ne l'a jamais posée. La gouvernance au Mali, de l'avènement de la démocratie à nos jours. L'école malienne, où en sommes-nous? La société civile, qui est aujourd'hui, comme je dirais même inféodée au pouvoir d'État. Et quand vous allez voir même les religieux qui font de la politique, parce que s'il n'y a pas de statut, alors tout le monde fait ce qu'il peut. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la question, il faut la trancher. Il faut qu'on se regarde et vraiment voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Une démocratie vraie, mais qui prend en compte, comme l'a dit mon frère, nos valeurs sociétales. L'islam est venu trouver des valeurs ici, s'est adapté. L'Église est venue trouver des valeurs, s'est adapté. Alors les autres qui nous sont venus nous trouver ici, nous devons nous ouvrir au monde, mais rester nous-mêmes. Je pense que le débat de fond, c'est de prendre en compte un pays où vous avez 95% des musulmans, de ne pas prendre en compte leurs préoccupations religieuses, sociétales. Je pense que c'est d'aller nulle part. Voilà la réponse que je peux vous donner.
Mamadou Samake, vous êtes donc en ligne. Pensez-vous qu'il faut revoir les choses en matière de laïcité au Mali?
Bon, revoir les choses, je ne dirais pas ça. Je dis simplement que la République doit s'adapter à elle-même. Parce que la République, par définition, c'est la chose publique. Et cette chose publique s'exerce dans un contexte sociétal. Parce que c'est les citoyens qui font la République. Et si la majorité, les préoccupations, la majorité de ces citoyens ne sont pas prises en compte, je crois que nous prêcherons dans le désert. C'est pourquoi je pense qu'il y a lieu d'adapter nos textes législatifs et réglementaires à notre réalité sociétale, ce que nous n'avons pas fait depuis les indépendances. Et la laïcité aussi ne veut pas dire que le religieux ne doit pas se prononcer sur les choses politiques. Ce que la laïcité veut dire que le religieux ne doit pas conquérir le pouvoir politique. Mais il a, en tant que citoyen, la latitude de se prononcer sur ce qui se passe dans le pays. Parce qu'il contribue, il est contribuable. Nous avons vu la prise de position du Vatican. Que le Haut Conseil islamique se prononce, mais ils doivent se prononcer dans le cadre des lois et règlements qui gèrent le pays. Et tout ce qui se passe comme extrémisme religieux, vous savez ce que je vais vous dire. De mon point de vue, l'islam, c'est la symbiose des cultes révélés. Parce qu'elle est la dernière lieu. Et quand vous lisez le Coran, ben, 40% sont d'obédience judaïque, 40% sont d'obédience chrétienne. L'apport de Mahomet, de mon propre point de vue et de ma compréhension, c'est 20%. Donc, il est précis dans le Coran, tu ne tueras point. Comment peut-on tuer au nom de Dieu? C'est une instrumentalisation de l'islam.
Professeur Akadou.
Bon, professeur Akadou, les prédécesseurs ne lui laissent pratiquement plus rien, parce que sur cette question-là, il est évident qu'il nous faut revenir à nous-mêmes. Parce que si vous regardez de très près, même le politique qui, selon sa convenance, rejette les religieux, rejette l'intrusion des religieux dans l'arène politique, c'est lui-même le politique qui, très souvent, va les solliciter quand ça l'arrange, n'est-ce pas? C'est lui-même qui est le premier violeur, n'est-ce pas, des règles de laïcité imposées, disons, édictées par l'Occident. Ça, c'est quand ça l'arrange. Donc, c'est pour dire simplement qu'il faut absolument trouver les mécanismes nécessaires pour que cette notion de laïcité-là, si vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui donner un autre nom, il faut absolument qu'elle revienne au peuple et que le peuple, au-delà même de l'islam, au-delà de la chrétienté, le peuple a des valeurs. Nous avons une civilisation riche. Nous avons un certain nombre de fondements, de coutumes qui peuvent nous aider à construire quelque chose. C'est peut-être utopique, mais il faut passer par là. On ne peut pas aller sur les modèles des autres pour, n'est-ce pas, réussir quelque chose de viable. Il faut revenir à la République, il faut revenir au peuple, et ensemble, avec les religieux, les chrétiens, les bouddhistes, les je ne sais quoi, les animistes, tout tout le monde, nous pouvons nous asseoir et imaginer et formuler la voie qu'il nous faut. Moi, je pense que c'est le chemin le plus rapide pour réussir quelque
Alors,
chose.
Alors, il nous reste très peu de minutes. Nous allons quand même tenter un dernier tour de table. Nous allons commencer par vous, Issaka Oudjim. Alors, on parle quand même d'immixtion des religieux dans la politique au Mali. On dit que c'est un problème. On parle aussi du fait que les politiciens se servent souvent des religieux pour atteindre leur objectif. Qu'est-ce que vous en pensez?
Quel est l'objectif? Je vous réponds la question. Bon, d'accord.
Vous comprenez quand même l'objectif d'un politicien.
L'objectif, c'est d'arriver au pouvoir, voilà. Ou alors détruire le pouvoir. Voilà, moi, ce que je vais vous dire, je pense qu'il est temps, il est grand temps qu'on essaie vraiment d'arrêter d'instrumentaliser ce peuple-là. Qui est religieux, qui ne l'est pas. Mais tout le monde est religieux. Mais peut-être que tout le monde n'est pas militant de la religion. Tout le monde est religieux au Mali. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez animiste, tout le monde est religieux. Alors, la question fondamentale, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne la pose jamais. C'est la gouvernance de ce pays-là. Depuis combien de temps on est en train de mal gérer ce pays, on détourne les biens de l'État et on est là à dire que c'est l'autre qui est en train de s'immixer à la chose politique.
Donc, c'est des erreurs qui
s'accumulent. Non, ce n'est pas des erreurs, c'est des fautes. L'erreur, ça se corrige, les fautes, il faut punir. Parce que dans ce pays, il n'y a pas de sanctions. Vous avez, j'ai dit le mouvement démocratique. Mais tout le chaos du Mali, c'est le mouvement démocratique. Ne cherchez pas loin. Ils sont venus, ils ont pillé l'économie, ils ont détruit l'école, ils ont amené une démocratie prostituée qui ne consiste qu'à créer des partis politiques qui ne représentent absolument rien et qu'aujourd'hui, qui sont en mal de popularité, qui ne savent pas à quel sens se vouer. Et maintenant, ils essaient de faire de la diversion. Parce que pour juste, je pense que le temps m'est compté. Alors, pour me résumer, je pense qu'aujourd'hui, en toute vérité, ce que nous devrons faire, c'est vraiment qu'on donne un statut aux religieux. Et cela permettra vraiment d'harmoniser tout ce qu'il faut pour que la démocratie trouve son envol.
Alors, en une minute, professeur Samake, vous êtes donc comme de droit. Alors, immixtion des religieux dans la politique, les politiciens qui se servent des religieux, cette question, que ça vous dit quoi?
De mon point de vue, je crois que l'État, il est loisible à l'État de reconnaître le statut d'utilité publique à une structure comme le Haut Conseil islamique, l'Église catholique et l'Église protestante. Et l'État faire en sorte que le dialogue interreligieux soit renforcé. Bon, la question que vous me posez de savoir si les politiques se servent du religieux, bien entendu, si 95% des Maliens sont d'obédience islamique, il est évident, on a vu des leaders politiques solliciter, appeler, et même ouvertement à ce que les religieux appellent à voter pour eux. On a vu ici, beaucoup de leaders politiques faire la cour aux différents religieux. Bon, il y a une haine politique auprès du Haut Conseil islamique, Tabassi 2012, qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée, mais je crois savoir qu'il n'y a pas eu de liste autonome, Tabassi 2012. Alors, qui a permis à ce qu'il soit à l'Assemblée.
Alors, merci donc, professeur Samake. Je sais que nous aurons l'occasion d'évoquer prochainement cette question avec vous. Nous retournons dans ce studio pour donc clore ce débat. Nous donnons la parole à Sbeti Akado de la société civile.
Oui, moi je dirais simplement que lorsque l'État est très fort, entre griffes bien sûr, lorsque l'État est très fort, c'est quand l'État peut se permettre tout, c'est-à-dire outrepasser les voies normales, plonger dans les religieux quand il le veut, plonger sur la société civile quand il le veut et s'en sortir sans aucune égratignure. Quand l'État est dans cette position-là, il devient dangereux, il devient un monstre. Et c'est ce qui explique que et la société civile et les religieux sont confondus, n'est-ce pas, dans cette mêlée-là où on n'est ni laïque, ni religieux, ni on est vraiment des monstres en Afrique en général. Et malheureusement, où le Mali, qui est le berceau, n'est-ce pas, qui est l'exemple qu'on peut présenter en Afrique, est en train de devenir un diable plus qu'un monstre. Et c'est dangereux. Les uns et les autres l'ont dit, l'État doit se ressaisir et revenir, n'est-ce pas, à l'essentiel, c'est-à-dire intéresser les Maliens à la forme de gestion qu'ils veulent. Cette démocratie, cette laïcité, tout ce qui nous vient d'ailleurs ne nous convient pas forcément. Il faut que le dialogue soit la règle, n'est-ce pas, pour aboutir à quelque chose d'intéressant.
Alors, c'est donc sur ces propos que s'achève ce débat. Je rappelle que le sujet du jour, c'était donc la laïcité au Mali. Nous en avons parlé avec trois invités, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique, Betty Ak Agadou de la société civile, Mamadou Samake qui est professeur de droit. À la réalisation, il y avait Ousmane Djadje Touré, mise en onde, Mamadou Ouattara. Alors, régie vidéo, c'est donc Lassine qui était là. Moi-même, Seydou Fomba, vous avez donc présenté cette émission. On se retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir et à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.